qui donc paraît là-bas. Chacun s'est arrêté pour mieux la voir et l'admirer. Devinez, devinez, devinez qui vient d'entrer.
Quelles sont vos actions ici à Chrétiens Migrants ?
C'est multiple, c'est-à-dire recevoir les gens et répondre à leurs besoins de papier.
Rosa Marie.
On les aide pour le logement, à appeler le 115, ou des fois on les héberge. On refait les papiers de réexamen, d'asile, de recours. On fait beaucoup de papiers, de régularisation. C'est surtout les papiers qu'on fait. Et on aide les gens aussi à trouver un logement quelconque, ce qui est difficile.
La plus sage du village, mais qui est-ce donc ? Rosemarie.
Rosemarie, est-ce que vous voulez rappeler pourquoi le lundi est un jour particulier ici ?
Alors le lundi, c'est particulier parce que tous les gens sortent des hébergements, soit hôtel, soit foyer, tout le monde sort et on attend un éventuel relogement. Pour certains, c'est bon, d'autres, moins. Et on attend des fois jusqu'à 18h, 19h, et des fois, il n'y a rien. Donc le matin, tout le monde sort avec ses bagages, et on attend le soir, voir si on sera logé quelque part, même si vous avez des bébés. Voilà, c'est la journée particulière. Tous les lundis, c'est comme ça.
Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi tout se branle bas ?
Et là, par exemple, il y a une dame qui était ici à l'instant avec deux petites filles. Est-ce que vous voulez nous expliquer quelle est sa situation ?
Alors la situation de cette dame que je viens juste de rencontrer là, c'est une dame malienne avec deux petites filles qui vient en France, donc qui a été à la préfecture d'Orléans et qui est Dublin, c'est-à-dire qu'elle est passée je crois par la Suisse, enfin elle est passée dans un autre pays européen avant d'arriver en France, donc il faut qu'elle retourne dans ce pays européen. Donc on lui donne un récépissé qu'on va lui renouveler jusqu'au jour où on va lui dire « Madame, il faut repartir dans votre pays ». Elle a deux petites filles, elle est venue parce qu'elle ne veut pas que ses petites filles soient excisées, moi j'en sais pas plus, elle vient juste d'arriver. Donc cette dame a été logée à l'hôtel et là, aujourd'hui, elle attend ce soir si elle va retourner dans cet hôtel ou ailleurs. Et sa situation, elle, c'est pas marrant parce qu'elle est seule avec deux petites filles. Il faut qu'elle tienne le coup jusqu'à l'année prochaine, 18 mois, pour pouvoir refaire l'asile normal. Alors, dans quelques mois, on va la convoquer pour lui dire « Madame, il faut repartir ». Donc si elle veut pas repartir, ben sauf, il faut qu'elle tienne le coup. Donc les petites, ben, c'est bon, elles iront à l'école, elles iront à l'école, c'est bon, mais bon. Avant, on aurait pu faire, dans ce cas-là, on aurait pu faire, avant la loi, dernière loi, on pouvait refaire l'asile pour les petites filles, pour l'excision. Et là, c'est fini. Madame est passée, Dublin, les petites filles aussi, terminé. Il y a toujours des gens qui arrivent. Hein. La loi, elle évolue, sans qu'on le sache. Tout d'un coup, on vous dit, ah non, non, c'est plus possible. Par exemple, vous êtes Dublin, vous faites, par exemple, j'ai un exemple, une dame qui fait sa demande à Chartres, l'asile, on lui dit, vous êtes Dublin. Donc, n'ayant plus de logement, elle vient sur Tours, où elle trouve à se loger. Difficilement, mais elle se loge. Et maintenant, ses 18 mois sont passés, elle veut refaire l'asile. Ah non, madame, vous repartez à Chartres. Vous retournez d'où vous arrivez, vous ne pouvez plus changer de région, de lieu. C'est pourtant la préfecture d'Orléans, mais ça doit être à Chartres qu'elle doit le faire. Pas à Tours. Même si elle est logée à Tours. Ça, c'est un petit exemple. Comme là, les petites filles, on ne peut pas faire l'asile pour elles, puisque la maman est Dublin, les enfants sont Dublin. La semaine dernière, un bébé qui est né ici... ne peut pas faire l'asile puisque la maman est Dublin, même si elle est née là. Parce qu'avant, c'était quand même assez pratique. Hein. Pour l'excision, bon, on pouvait facilement obtenir un statut. Là, il faut attendre. Tout est comme ça. Pareil pour les allocations, trois quarts du temps, soit la carte n'est pas bonne, soit ils ont fait une erreur. Enfin bref, les allocations sont coupées. Alors on attend. Quand est-ce que ça reviendra, on ne sait pas. Il faut retourner à Orléans, il faut redemander une carte aux filles. Vous avez déjà attendu 45 jours pour avoir droit à cette carte. Et il y a un bug, je ne sais pas ce qui s'est passé, comme ce matin, le monsieur ne touche rien, on ne sait pas. Il faut appeler l'OFI qui ne répond pas, il n'y a pas d'appel l'OFI, répondre quand ils ont le temps.
Est-ce que vous voulez préciser ce que c'est l'OFI ?
Alors l'Office français d'immigration et de l'intégration. Donc c'est à Orléans que ça se passe, pour la région centre, c'est Orléans. Et tout passe par eux. Après vous avez l'OFI à Paris, mais pour la région c'est à Orléans.
Donc là, on voit dans votre bureau, il y a des dossiers presque jusqu'au plafond, quand même.
Des dossiers partout. Non, vous n'avez pas vu le fond, là-bas, c'est pire. ben oui.
Et alors, dans ces dossiers, c'est un dossier par chaque personne que vous accompagnez ?
Oui, personne. Là, tout en bas, c'est les mineurs. Là-bas, une partie des mineurs, parce qu'on en a reçu 800 l'année dernière. Mineurs. Maintenant, c'est stoppé, puisqu'ils ont dû boucler la frontière, ils n'arrivent plus. Ou très, très peu. Donc là, les mineurs, c'est un peu stoppé. Maintenant, ça arrive toujours. Vous voyez, c'est du Mali, ça arrive. Beaucoup d'Angolais. Beaucoup de Soudanais aussi. Le Soudan, c'est le Soudan, la Guinée. Mali, un peu. Mais la Guinée, qu'est-ce qu'il en arrive, hein, les Guinéens. Géorgien aussi. Enfin, géorgien, c'est pas la peine de se tracasser, c'est d'office, ils sont refusés.
C'est très rare.
Oui. Pourquoi ils sont refusés d'office?
Parce que c'est un pays sûr. La France décide les pays qui sont sûrs, il n'y a pas de problème. Donc s'ils viennent, c'est que, c'est pas sûr pour eux. La France les rejette, donc c'est pas la peine, ils font le dossier, ils font les recours, vont juste au bout, mais ils ne partiront pas pour les trois quarts. Certains viennent aussi parce qu'ils sont malades chez les Géorgiens. Des gens malades, hein. Très malades. Des gens d'un certain âge.
Ça fait combien de temps que le local est ici, en fait, que vous intervenissez?
Oh oui, ça fait presque 20 ans. Hein. On a commencé rue de la Fuie au Secours catholique, et après on est venu là rapidement. Donc ça fait bientôt 20 ans qu'on est ici, Sanitas. Donc les HLM ont voulu nous virer un peu plus loin, parce qu'on était un peu gênants. Donc on nous a proposé d'aller auprès du pont de l'autoroute dans des bâtiments qui vont être démolis. Mais pour nous, ils auraient gardé un petit logement qu'on aurait payé le chauffage. Hein. Alors bon, déjà émergence n'y est plus, et nous, on nous y met. Parce que là-bas, on nous verra, on sera tranquille. Hein. On n'embêtera pas le quartier. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu plus calme maintenant, puisque maintenant les gens sont logés. L'hiver dernier, c'était catastrophe. On a investi tout l'escalier, les gens logés dans l'escalier, il n'y avait rien. Alors maintenant, ils ont compris, là, ils nous ont ouvert, là, avant l'été, le dortoir à côté, là, c'est émergence, il y a 25 places. Le problème, c'est que l'année dernière, ces 25 places étaient destinées aux hommes qui quittaient le foyer, puisque tous les ans, il y a un mois de fermeture pour Albert, Thomas, et un mois de fermeture pour Paul Bert. Donc les hommes qui sortaient des foyers allaient ici. Et là, on a décidé, on y met les familles. Oui, c'est que les familles. Les hommes, ils vont dehors. Parce qu'on tape aussi les dossiers OFPRA. Puisque la PADA ne fait pas tout. Quand c'est des Arabes, on a un traducteur arabe, Mohamed, qui traduit le français, l'arabe en français. Quoique la préfecture dit qu'il ne sait pas parler le français, mais enfin, il fait des traductions. C'est déjà pas mal. Oui, ce matin, j'ai eu une dame, ça fait 17 ans. On a fait une demande l'année dernière, au mois d'août, une demande de régularisation, 17 ans de présence. Et là, j'ai fait une deuxième lettre au mois de janvier. Là, j'ai rappelé encore une deuxième fois. On me dit, on a retrouvé le dossier. Oui, ben elle va passer en commission de titre de séjour au mois de septembre. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chance. Parce qu'on va y trouver quelque chose, elle parle pas bien français, elle a ceci, elle a cela. 17 ans de présence en France. Elle est d'Érythrée. Elle n'est pas repartie en Érythrée, c'est vrai qu'il fait bon en Érythrée, on peut y vivre, hein, facilement. Voilà. La détresse, beaucoup. Hein. S'ils viennent là, c'est parce qu'ils ont un problème. Ils ont un problème, s'ils ne viendraient pas. S'ils ne trouvent pas de solution, mais ils viennent là, on essaye de répondre à leurs besoins. Des fois, on répond, des fois pas. Hein. Si c'est le logement, on a du mal, puisqu'on n'a pas de logement. Non. Si on a quelques locations, on a 3 ou 4.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir, chrétien migrant?
La détresse des autres. Hein. On ne peut pas partir comme ça, tranquillement, les yeux fermés, puis tu crèves à côté, non. Il y a son copain, son prochain à côté, là, qui est en train de tirer la langue. Alors, soit on les aide, soit on les laisse mourir. On fait comme gouvernement, on les laisse mourir dans les bateaux, là-bas. Accueil de l'étranger, ben oui, pour qu'il essaye de s'insérer dans notre pays. Pays des droits de l'homme, ils viennent tous en disant « La France, pays des droits de l'homme ». Ça a été le pays des droits de l'homme, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. Parce qu'il y a quand même des choses qui se passent qu'on ne dit pas. Sur Mélie-Lamelot, le centre de rétention Mélie-Lamelot, la CIMAD qui était l'opérateur, puis ça avait fait des appels d'offres. Donc la CIMAD avait Mélie-Lamelot à gérer. C'est un centre de rétention quand vous êtes attrapé, pas de papier, Mélie-Lamelot. En attendant de vous expulser ou de vous libérer. Et là, il se passe des choses tellement terribles que la CIMAD démissionne, se retire.
Article l'express.fr avec AFP, publié le 19 juillet 2019. La CIMAD se retire du centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot. Fin juin, des associations avaient alerté sur l'urgence de la situation et la nécessité notamment de prendre en charge les personnes atteintes de troubles psychiques. La CIMAD n'est plus présente au centre de rétention administrative, CRA, de Mesnil-Amelot, en Seine-et-Marne, considéré comme le plus grand de France. L'ONG a fait cette annonce après plusieurs jours d'une situation de violence extrême pour les personnes retenues au sein du centre. Depuis le 11 juillet, l'association n'intervient plus dans ce CRA, situé à quelques centaines de mètres des pistes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Selon la CIMAD, environ 200 personnes sont actuellement retenues au CRA du Ménil à Melo, d'une capacité de 240 places, et où sont maintenus les étrangers qui font l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de leur renvoi forcé. Ces derniers jours, il y a eu 3 tentatives de suicide dans le centre, sans compter les actes d'automutilation. Pour réprimer les grèves de la faim, les retenus sont envoyés en cellule d'isolement, a affirmé à l'AFP le secrétaire général de la CIMAD, Cyril De Billy. Ces violences ne permettent plus aux équipes de la CIMAD d'exercer leur mission d'accompagnement juridique dans de bonnes conditions, explique-t-il. La politique menée par le ministère de l'Intérieur en rétention a des conséquences d'une extrême violence pour les personnes enfermées, selon Cyril De Billy. La direction du CRA n'a pas souhaité s'exprimer. La CIMAD réclame des conditions de vie dignes, moins d'enfermement, 40% des personnes retenues sont libérées sur décision de justice. Selon l'association, au CRA du Ménil à Melo, l'accès à l'eau potable n'est plus possible après 19h. Une femme enceinte soudanaise est retenue actuellement et a des difficultés d'accès aux soins. Ce retrait de la CIMAD intervient 3 semaines après une lettre envoyée au ministre de l'Intérieur par 22 associations, lui rappelant l'urgence de la situation en rétention et la nécessité, notamment, de prendre en charge les personnes atteintes de troubles psychiques graves. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a assuré que la prise en charge psychologique des personnes retenues va faire l'objet d'un renforcement. La CIMAD estime que cette réponse est insuffisante et nie les pratiques illégales quotidiennes en centre de rétention, comme l'enfermement des enfants ou l'expulsion de demandeurs d'asile avant la réponse de l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur 2800 personnes enfermées au CRA du Ménil à Melo en 2018, 1000 ont été expulsées selon le rapport annuel des associations habilitées à intervenir en CRA. Article de l'Express.fr avec l'AFP, publié le 19 juillet 2019.
Et parce que si vous êtes attrapé, c'est vrai que c'est direction les centres de rétention. Donc là, on essaye, il en sort, ressort pas mal. Sur Rennes, il y a des centres. Ouais. Il y a des avocats qui sont quand même pas mal, on en sort pas. Ouais, il y en a quand même qui restent, hein, qui reprennent l'avion pour partir dans leur pays. Alors quand on a fui son pays parce qu'on a des problèmes, et vous y retournez, pas joyeux. Hein. Alors les gens se révoltent d'abord et apparemment c'est pas... Ça on n'en parle pas. Top secret.
Les conditions de travail sont tellement déplorables.
Bah, ils sont en prison, hein, c'est clair. Hein.
Possible.
Femmes et enfants.
On va éviter les expulsions. Il y a des personnes qui n'ont pas accès aux soins. Mais non, la CIMAD se retire.
Puis en plus il y a les enfants et c'est femmes et enfants.
Ah bah oui.
Qu'est-ce que vous aimeriez demander pour vous aider au quotidien ici, dans le travail que vous faites?
Ce qu'on aimerait, c'est que les gens, on arrête de sortir les gens tous les lundis matins, parce que déjà tous les jours, ils sont hébergés, bien sûr, mais à 9h, tout le monde sort. Quand il fait chaud comme ça, il faut trouver un point de chute. Même les bébés, hein, tout le monde sort. Hein. Donc qu'on arrête de martyriser les gens, qu'on les laisse au moins la journée, surtout quand il fait des canicules comme ça. Alors tous les matins, tout le monde sort. Alors ceux qui sont achambrés là-bas, bah, ils viennent à pied ou prennent le bus sans payer. Une fois, on les fait descendre, mais tant pis. Hein. Parce qu'il y a le village achambré, ils sont quand même pas mal, là. Peut-être une quarantaine achambrés. Famille. Là, par derrière, ils sont peut-être 25. Mais tout le monde sort le matin. Alors les gens s'en vont à l'accueil famille, si c'est un couple, avec enfants. Femmes seules peuvent aller au Secours catholique quand il est ouvert, des fois que c'est fermé. Vous avez la table de Jeanne-Marie, ils peuvent aller manger le midi, puis ils attendent le soir pour aller retourner dans leur foyer. S'ils ont la chance d'être à l'hôtel, là ils peuvent rester la journée, mais les hôtels, il y a l'hôtel Comté à côté qui n'est pas trop loin, mais autrement c'est les hôtels Tournord. Hein. Ah oui. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup d'hôtels à Tournord en ce moment, parce que cet hiver il y a beaucoup d'hôtels, à 8h du soir on vous dit allez, vous allez là-bas sur la Nationale 10. Formule 1, comment ils y vont? Ah bah ça c'est pas le problème.
J'étais
broke. Ah oui, non, le 115 c'est terrible.
Tout à l'heure, vous disiez à la dame aussi, mais faut appeler.
Ah oui, tout l'après-midi. Hein. Rappelez à 6h30, alors quand on vous dit rappelez à 8h30, on s'est foutu. 6h30, alors on espère, puis des fois, il n'y a rien. Alors on trouve des gens sympas dans le quartier ou à la riche, on trouve des fois des gens qui hébergent pour 2 ou 3 jours. On essaye de les caser parce que l'hôtel on stoppe, parce qu'autrement on paye l'hôtel et on les emmène. Mais là bon, on a trouvé quelques personnes là, qui hébergent un peu.
Ouais.
Ouais.
Trois familles
qui hébergent. Ouais.
La dame de la riche.
Ouais, ouais. Oui, il y a trois. Ouais. Trois familles qui hébergent pas tous les soirs.
Ouais, pas tous les soirs,
mais bon, un peu. Ou alors, on se trouve des amis. Beaucoup se trouvent, ces femmes seules surtout, se trouvent une copine ou un copain. Voilà. Et ils vont loger quelques jours. Et même ceux qui ont le statut de réfugié, comme Madame, elle a toujours pas de logement. Elle a 4 gosses. Hein. Elle a le statut de réfugié, non. C'est vrai qu'elle a déménagé. Mais elle n'est pas logée.
Ça va se faire.
Ça vous fait rire ?
Et c'est grand doucement.
3 ans de présence, oui, c'est pas mal. Bon, elle était logée, c'est un cas spécial. On n'a que des cas spéciaux, hein. Parce qu'elle était logée dans le Nord, et puis tout d'un coup, elle a quitté monsieur, et puis elle revient avec ses 4 gosses, et tout d'un coup, monsieur revient, et il l'a suivie. Ouais, elle était un peu déconfite, mais bon, elle n'a pas le choix. Donc maintenant, elle travaille, monsieur ne travaille pas, lui.
Non, mais non, c'est...
Elle a trouvé du boulot, et puis elle trouve des gens qui l'hébergent, à un moment. Alors, le logement est demandé par l'entraide pour la solidarité, mais il ne faut pas être pressé, ça passera en commission à la fin du mois, peut-être, si on a une chance. Nous, on a 2 familles qu'on héberge depuis plusieurs années. Dans une, là, ça y est, qui a son logement, qui a eu le statut, donc qui va partir le mois prochain, ça y est, qui nous fait un logement de moins, mais par contre, on a une autre qui aura pas un logement tout de suite. Il y a 3 enfants, dont 2 petits, et on a fait 3 demandes de circulaire Valls, 3 rejets. Et le garçon, lui, il va rentrer à la fac, donc il pense, s'il travaille un petit peu, il va peut-être arriver à la longue à prendre sa mère en charge. Parce que la mère, elle est seule avec les 3 enfants. Ouais, c'est que des situations.
Donc là, vous dites que vous avez 3 logements, enfin, vous avez des logements en tout cas. Ça veut dire que c'est sur vos fonds en personnel, enfin, sur vos fonds de l'asso en tout cas.
L'association, c'est pour ça qu'on voudrait les supprimer. Donc, madame, voilà, c'est bon, on la supprime puisqu'elle a son logement, ça y est. Par contre, il nous reste un logement pour les mineurs, et un logement pour Asma, un logement pour Mohamed, 1, 2, il va en rester 3. Donc un logement, il faut qu'on fasse un transfert, parce que on a un jeune handicapé qui a été 2 ans chez moi, qui a eu une grosse opération, et qui part demain au Mans en rééducation, en fauteuil, et il faut à la sortie, peut-être même avant, trouver un appartement pour handicapés. Ce qui pose beaucoup de problèmes, parce qu'on n'en trouve pas. Est-ce qu'on pourrait faire le transfert de ce logement qu'on a pour mineurs qui n'est pas adapté? On le supprime et on prend un logement adapté. Et on ne trouve pas. Parce que là, il est en fauteuil. Bon, lui, il a dit je marcherai, mais enfin, pour le moment, il ne marche pas. Et moi, chez moi, je ne peux pas lever mes escaliers, il ne peut pas revenir. Dans cet état-là, il ne peut pas. Alors, on a aussi la question des jeunes qu'on a pris en charge depuis plusieurs années et qui, petit à petit, arrivent à avoir des papiers après l'école. Parce que l'ASE les a refusés. Donc, on les a inscrits à l'école. Donc, Gorgi, bon, rentre à la fac, lui c'est bon. Tannevert a eu son passeport, il est embauché en cuisine. Ouais, petit à petit, alors 18 ans, on arrive à les caser. Il faut qu'ils aient l'école. Et comme ils ont supprimé le CIO, pour nous c'est important parce que tous les jeunes qui arrivaient, on prenait rendez-vous au CIO pour être évalués. Et là, maintenant, je ne sais pas comment on va faire.
Si, il reste celui de Chouilletto.
Ah bah, attends. Chouilletto, tu rigoles.
Ah.
Bah oui, mais c'est quand même pas pour une ville comme Tours. C'est quand même pas normal qu'on supprime le CIO.
Je suis d'accord. Il faut regrouper.
Vous avez l'impression que c'est fait exprès, tout ça?
Bah bien sûr, c'est fait exprès. Mais ils vont pas partir, ces jeunes-là, ils vont rester. Si vous regardez dans la rue, vous voyez tous les petits vélos, ils pédalent avec des sacs sur le dos pour gagner 3-4 sous. Ils n'ont pas envie de partir, ils veulent rester tous, ils viennent, on veut aller à l'école. Bah oui, mais vos garçons, vous avez 16 ans, 17 ans, pour vous, l'école, c'est foutu.
Mais c'est ce qu'ils disent.
Bah, c'est pas foutu, parce qu'on les inscrit, mais bon, c'est pas facile. Parce que là, ça s'est rétréci depuis l'année dernière, il y a beaucoup moins de place aux écoles. Beaucoup moins. Puis après, il faut se loger. Donc il y a pas mal de familles avec Utopia, qui a trouvé pas mal de familles pour loger des jeunes, et puis il y a tout le bercail là-bas, le plan B. Il y a peut-être bien 35 encore là-bas.
Il faut y aller.
Squat depuis tout l'hiver. Hein. Alors tous ces jeunes, ben, ils sont suivis au niveau médical, puisqu'il faut faire les vaccins et tout ça. Et puis, il y a certains sont malades quand même.
Une école, parce que pour eux, c'est aller à l'école. Et c'est vrai que le petit handicapé qui était chez moi, il passe en première, au mois de septembre, pour lui, il va marcher, il va aller à l'école à Becquerel. Hein.
Même en fauteuil, ils ont une envie d'apprendre. C'est après, que les Français n'ont pas.
Oui. Moi, je le constate.
Dans leur pays, il n'y a rien. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Ou alors l'école coranique pour les filles. Ah oui. Donc, ils viennent ici pour aller à l'école. Après, Becquerel, c'est la cuisine. Ou le numérique. Vidal, ça va être le numérique. Becquerel, ils ne sont pas à rien faire.
Qu'est-ce qu'on peut faire si les gens ont envie de vous aider ? Ils sont d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?
Qu'est-ce qu'on peut nous faire ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut demander ? Des hébergements ?
De l'argent.
Ah ben oui, pour payer, parce qu'il y a aussi toutes les cartes de séjour qu'on paye. Vous avez un titre de séjour d'un an, 269 euros. Vous êtes enfin régularisé, c'est 600 euros. Donc là, notre budget, il a eu mal cette année.
Parce que lorsque nous faisons des appels à dons, c'est uniquement pour pouvoir
toutes les cartes de séjour,
fonctionner ce local que nous payons, mais aussi pour payer tous les à côté. Mais c'est pas...
Les cartes de bus,
c'est juste pour aider... Les étrangers qui eux viennent en disant je n'avais pas le choix, parce que c'est pas un choix, moi. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la directrice de l'UNICEF qui a fait une conférence de presse. Elle a commencé sa conférence en disant la fuite n'est pas un choix.
Alors, donc, on a les cartes de bus aussi, tous les scolaires, il faut payer les cartes de bus tous les mois. Les voyages à Orléans, le premier voyage à Orléans. Ils viennent nous voir, on paye des bus, des fois à Paris, puisque maintenant ça va tellement vite, l'asile va tellement vite que quand ils sont convoqués à l'OFPRA, ils sont tous convoqués à Paris, à l'OFPRA, ils n'ont pas eu le temps de toucher un centime. Parce que maintenant tout est globalisé, c'est centralisé à Paris. Donc l'OFI de Paris, c'est eux qui décident si vous avez une carte, c'est une carte maintenant que vous mettez dans un guichet comme à la banque, vous avez le droit de tirer 5 fois, pas plus, sinon c'est bloqué. Mais souvent l'argent n'est pas là, ou la carte n'est pas activée, ou c'est pas quoi. Donc, ils se retrouvent à être convoqués à Paris sans argent. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de toucher. Il faut 45 jours avant espérer avoir un centime. Mais avant 45 jours, ils sont déjà, parce qu'il faut aller vite. M. Macron a dit qu'il fallait aller très vite. Donc, ils vont à l'OFPRA, donc on est obligé de payer quelques... Donc, on prend les fameux bus, là, pas cher. Ou alors, ben, quand c'est Orléans, qu'il faut, il fraude. Si c'est à 9h du matin, ben, il fraude. Hein. On ne peut pas payer un bus, il n'y a pas de bus à 9h. Alors, à Paris, c'est un peu plus embêtant donc de les faire frauder. Donc, c'est vrai qu'il y a d'énormes dépenses. Hein. On a un budget de 45 000 euros quand même, hein, à l'année. Il faut les trouver. Les subventions, ben...
Il y en a moins.
Ben si, on a la mairie de Tours. Pas dire. On a 500 euros de la mairie de Tours.
J'ai dit qu'il y en avait de moins en moins. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas.
Voilà. Alors après, si on a vu le Conseil Général l'année dernière, 3 500, mais je crois que
oui, mais là,
ça va s'arrêter.
Ça, oui.
Alors on a un peu d'aide d'Emmaüs, puis les dons que les gens nous donnent. Quoi.
C'est pour ça que je dis que ça diminue.
Donc il faut pour mettre notre poche, quoi. Voilà.
Et il faut rester positif.
Ah oui, parce que en plus, la moindre lettre, quand vous voulez écrire à la préfecture, il faut mettre 50 euros, sinon elle n'ouvrira pas votre lettre. La moindre demande, c'est 50 euros. Comme les cassoueb, on a mis ça 15,50, on a mis 100 euros pour les cassoueb. Je vais leur envoyer chacun une OQTF, comme voilà. Ça, gentiment. comme si on envoyait une fleur. Oui, oui, ben je vais leur envoyer une OQTF, Camille.
Oui, oui, je vous donne la réponse à leur dossier, c'est une OQTF. Non, je vous l'envoie.
Il n'empêche qu'on a mis 50 euros, 100 euros dans la poubelle. C'est pas remboursé, ça.
Site de la CIMAD, lacimad.org. Fiche réflexe, OQTF, l'essentiel en 4 pages et le recours minute. Il existe 3 types d'OQTF. Obligation de quitter le territoire français. OQTF avec délai de départ volontaire, DDV, de 30 jours et délai de recours de 30 jours. OQTF avec délai de départ de 30 jours et délai de recours de 15 jours. OQTF sans délai de départ volontaire et délai de recours de 48 heures. L'OQTF est une mesure qui vise à contraindre la personne à quitter le territoire, soit volontairement pendant le délai qui lui est laissé, appelé délai de départ volontaire DDV, soit de manière contraignante, une fois ce délai expiré ou en l'absence d'un tel délai. Elle empêche l'examen d'une nouvelle demande de carte de séjour tant qu'il n'y a pas d'élément nouveau dans la situation de la personne. Après l'expiration du DDV ou l'absence de celui-ci, l'administration pourra prendre des mesures restrictives, assignation à résidence ou privative de liberté, rétention administrative en vue de l'expulsion. Elle peut le faire pendant un an, à compter du prononcé de l'OQTF. Si la personne souhaite contester la décision de l'administration, elle a droit au recours. Dans tous les cas, il sera plus facile pour l'administration d'expulser la personne si elle est en possession de son passeport. Si la personne choisit de faire un recours, lui expliquer l'importance de suivre les correspondances, courrier, SMS, mail, et de se rendre à l'audience et l'informer quant à l'absence de risque d'arrestation dans les tribunaux administratifs. Nouveauté de la loi de 2016, les OQTF ne sont considérés comme exécutés que si la personne quitte le territoire européen et non plus seulement le territoire français. Fiche réflexe, pôle enfermement, expulsion, mars 2019, publié par la CIMAD.
Ah oui, il y a plein de dépenses quand même à faire. Hein. Les envois de courrier, les traductions de papiers officiels, actes de naissance, actes de mariage ou des preuves pour faire l'asile. Enfin, oui, il y a des tas de dépenses. Hein.
Bah, tout ce qui est voilà. Recommandé.
Ah bah les recommandés, ça tout parle recommandé.
Commence sur un air de polka, musique magique du bon temps d'autrefois.
Il y a même
tout ce qui est. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le traducteur officiel, c'est ça?
Moi, bénévole, je fais ça bénévolement. Voilà. Je traduis tous les étrangers qui viennent des pays arabes, la Syrie, Irak, Soudan, Érythrée. Moi, c'est 14 ans, hein.
Voilà. La préfecture dit qu'il n'est pas intégré, qu'il ne parle pas bien français.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est la commission de titre de séjour qui normalement ne devait pas se faire. Il n'est pas intégré, il ne travaille pas forcément, il n'a pas le droit. Donc il ne parle pas bien le français, donc refusé.
Ça fait seulement 14 ans qu'il est là, mais il n'a pas de papier. Mais on va être gentil parce qu'on n'enverra pas d'obligation de quitter le territoire.
La préfecture.
Voilà. J'appelle Monsieur Bouygues de la préfecture. Il me dit, je vais lui envoyer l'OQTF. Ah bon? J'appelle Louis Barrault, qui téléphone à Bouygues. Alors je ne vais pas lui envoyer. Mais il n'a pas de papier.
Voilà. On attend.
On ne sait pas quand ça va débloquer. Donc, démarche près de la préfète qui fait la sourde oreille. Donc, on ne sait pas. Donc, pour le moment, il est là. Il va à la préfecture, il aide les gens, il va, il revient. Et même au commissariat, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il n'a pas de papier.
C'est bien parce qu'elle nous rend bien service.
Il ne coûte rien à l'État. Il travaille, mais il ne coûte rien. Hein. C'est une économie pour l'État. Ça prend la place d'un salarié.
Alors, monsieur, quel est votre métier à la base?
Moi, je fais le commerce en Indien. Je suis un commerçant. Voilà. Et maintenant, je peux travailler tout. Je me débrouille à tous les travails, à droite, à gauche, comme ça, mais malheureusement, comme j'ai pas de papier, je ne peux pas. Voilà, je peux rien faire. Mais je peux faire beaucoup de choses avec des papiers. Je peux faire beaucoup de choses même. Sans papier, je fais aussi.
Comment vous faites alors au quotidien pour assurer toutes vos dépenses nécessaires?
Ben, on se débrouille, on mange ici, on loge ici.
On le loge.
Voilà. Je suis logé par Chrétien Migrant.
Autrement, ils mangent ben, tout ce qu'on nous apporte.
Voilà. Tous les dons, ils mangent. Sur ce qui est donné là, ils survivent.
Alors, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous, monsieur, vous venez de quel pays?
Moi, je viens du Congo, Kinshasa, République démocratique de Kinshasa. Du Congo plutôt. Je suis à Kinshasa, la capitale.
Donc, le monsieur est là depuis 14 ans, et vous?
Moi, j'ai plus de 6 ans. J'ai plus de 6 ans que je suis arrivé en France, donc je suis là.
Et vous, alors, quel est votre métier? Quelles sont vos compétences?
Moi, j'étais médecin dans mon pays, médecin généraliste, mais j'ai travaillé dans une maternité pendant 5 ans. Et voilà, les circonstances de la vie m'ont amené en France. Bon, les circonstances de mon pays, la politique de mon pays qui m'a fait fuir mon pays. Je suis maintenant en France depuis 2013. Et pendant que j'étais encore demandeur d'asile, j'ai pu passer mon diplôme d'infirmier. Donc, j'ai un diplôme d'infirmier d'ici, mais comme je n'ai pas un titre de séjour, je ne peux pas bouger, tout est bloqué. Et j'ai eu des enfants déjà ici depuis que je suis là. J'ai rencontré une dame, c'est avec elle que je suis ensemble depuis 2015, et on a eu des enfants, des petits garçons. Voilà quoi.
Et alors, même en ayant des enfants, en ayant une famille ici, enfin, ça ne vous aide pas?
Non, personne. Parce que j'ai encore introduit une autre demande à la préfecture en entendant que les coups de pouce de Chrétien Migrant. Donc, parce que je suis membre de Chrétien Migrant depuis janvier 2014. Je fais partie du conseil d'administration. Je fais toutes les démarches qu'il faut faire. Hein. Donc, avant que Mohamed soit là, moi, c'est moi qui accompagnais les mineurs à l'aide sociale en enfance. Des fois, je faisais même l'interprétariat à français, lingala, ou soit un tout petit peu de portugais, comme moi. Je connais un peu portugais. Je le faisais au tribunal, à l'aide sociale en enfance. Ici, j'ai fait des traductions en français, lingala, français, portugais, donc portugais, lingala, portugais, français. C'est depuis 2014 que je suis là. Et je suis membre bénévole d'une association, pardon, du Brière Association, une maison de retraite. Et je suis aussi à la table de Jeanne-Marie. Tout ça, c'est comme bénévole. Là, je suis même responsable de la journée du jeudi. Je suis au CPO, j'assiste les médecins dans des consultations. Et puis, voilà comment je passe ma journée.
Voilà, donc tous les deux, vous travaillez toute la journée, tout le temps, pour 0 euro.
0 euro. Là, je quitte du CPO pour Chrétien Migrant. Et je sais que je vais m'absenter pour 30 minutes pour aller récupérer l'enfant au centre et puis le ramener à la maison. Et puis je reviens ici. Jusqu'à 21h à la fermeture, 21h, 21h30, je suis dehors.
Qu'est-ce que vous espérez pour vos enfants ici?
Bon, mes enfants sont là, ils sont nés ici. Et ils ne vont pas subir ce que moi je suis en train de subir. Ils ont une bonne éducation. Le premier va déjà à l'école depuis l'année qui vient de s'achever. Mon souhait que mes enfants ne vivent pas ce que moi je suis en train de vivre, parce que ça risque de me disjoncter un peu, faire 9 ans de la médecine à l'université et puis vivre ce que je suis en train de vivre. Il faut avoir des nerfs solides.
On est solide. Voilà, on est là tous les jours.
On espère toujours qu'un jour la situation sera décantée.
Ça va débloquer.
Ça va débloquer.
Vous gardez espoir quand même.
On garde quand même l'espoir.
Voilà, oui, il faut toujours garder l'espoir.
Il faut toujours garder positivement.
Rester positif. Toujours, toujours même. On souffre à l'intérieur, mais on est souriant avec tout le monde. On accueille tout le monde. On travaille avec tout le monde. On n'a pas de problème. Mais on va tenir aussi. Et ça ne répond pas, on va tenir. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a les hauts et les bas. En ce moment, on est en bas. Voilà.
Vous avez l'air fatigué quand même, tous les deux.
Mais c'est depuis le matin. Moi, j'ai laissé ma maison à 8 heures. De 8 heures jusqu'à là, je n'ai même pas déjeuné à midi. Donc, toujours aider les gens. On est là.
On est là jusqu'à 22h, 23h. Tous les jours, sauf samedi. Samedi, dimanche, des fois, on travaille.
Des fois, on est là pour faire les 115, des fois.
Voilà,
pour travailler. Même le week-end.
Même le week-end, j'ai travaillé deux dossiers soudanais. J'ai pas de repos. Pour le week-end, des fois, j'ai pas de repos.
Est-ce que vous pensez que vous êtes quand même parfois des modèles pour les personnes qui arrivent seulement, de voir que vous tenez, en fait, que vous tenez bon?
Personnellement, oui, ils voient cette image avec moi. Ils m'ont dit, tu es trop patient avec nous. On espère que ça va débloquer pour toi, mais tu es un exemple pour nous aussi. Parce que on est venu avant, eux, ils viennent maintenant, c'est pareil. Ça veut dire le même problème, même situation, mais des fois, on souhaite pour les personnes qui viennent maintenant qu'ils obtiennent leur papier. Ils ne souffrent pas comme nous, mais on est habitués, voilà. On est des combattants.
On s'habitue à la vie dure, alors.
Quelque part, quand on n'a pas de choix, comme on dit en français, quand on n'a pas ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a.
Mais on ne fait pas de mal.
On ne fait pas de mal aux gens.
On ne fait pas de mal. Peut-être les autres, ils croient qu'on va faire du mal, on va profiter du travail des Français. On va faire. Mais nous, on peut faire plus que d'autres. Mais chacun. Quand je suis passé à la commission, ils m'ont dit, monsieur, vous ne parlez pas suffisamment le français, mais monsieur, je vous réponds en français, j'ai pas un traducteur avec moi. Voilà. C'est ça.
Bien.
Maintenant,
on
est patient, on reste comme ça. Pas de problème. Il y a des gens qui crèvent de faim, il y en a des gens qui meurent dans les guerres civiles. Nous, on est vivants, merci Dieu.
Voilà. Moi, je vais.
Le mot de la fin.
Le mot de la fin. Bon, on est là, on est toujours dans une situation, on est là pour aider. Mais on n'espère pas rester là toute nos vies. Donc, nous savons qu'un jour, les choses vont changer. On a toujours de l'espoir. Merci.